Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, 30 ans après la réunification de l'Allemagne en 1990, à l'heure où la chancelière Angela Merkel s'apprête à passer la main après 16 ans au pouvoir, une autre Allemagne se dessine. On en parle aujourd'hui dans Accent d'Europe. Les jeunes Allemands de l'Est veulent se réapproprier leur histoire. Ils discutent du modèle de société dans lequel ils veulent vivre, même si les clichés ont la vie dure. Et si 30 ans après, l'économie dans la partie Est du pays n'a pas encore rattrapé le niveau des Länder de l'Ouest, les progrès sont indéniables. Sur l'économie, aujourd'hui encore, le débat sur la Treuhand reste vif. La Treuhand, c'était un organisme d'État qui a privatisé plus de 3800 entreprises dans la foulée de la réunion des deux parties du pays. C'est un reportage de David Philippot à Berlin.
Au pas de course, au milieu des machines fumantes, Detlef Scheele visite l'usine de fibres synthétiques. C'est le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi. Il est ici parce que l'usine souffre d'un manque de main-d'œuvre. Pourtant, autrefois, 7000 personnes travaillaient ici. Mais à la réunification, les experts de la Treuhand ont décrété qu'il fallait dégraisser. La région s'est vidée de sa main-d'œuvre. La ville voisine a perdu un tiers de sa population. Mais Detlef Scheele refuse de faire le procès des années 90.
Il faut toujours garder en tête que nous avons complètement transformé une économie qui n'était pas du tout résistante à la concurrence en une économie compétitive et performante. Les gens qui travaillent ici maintenant n'ont jamais eu des emplois aussi solides.
Le patron de l'entreprise Märkische Faser, un géant courtois et dynamique, n'est pas du tout de cet avis.
La Treuhand, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Je suis sûr qu'on a été trop arrogant à l'Ouest. On n'a pas accepté que l'Est a aussi des structures qui sont plus développées qu'on a pensé. Il a eu beaucoup d'opportunisme politique à court terme. Alors l'Ouest a voulu gagner plus d'argent.
Eberhard Bracke vient de l'autre bout du pays, près de la frontière avec la France. Il est l'un des rares entrepreneurs de l'Ouest à avoir cru au potentiel de l'Est, et notamment de cette entreprise qui était l'un des fleurons de l'industrie de RDA et avec laquelle son père travaillait du temps du mur.
On a vendu cette fibre qu'on a produite ici pendant 20 ans dans tous les pays. C'était une fibre de classe mondiale.
Mais à l'époque, la Treuhand ne fait pas la même analyse. Elle vend l'usine à un repreneur suisse qui la cède à un groupe d'actionnaires de Singapour. C'est la faillite. Mathias Hohmann était syndicaliste à l'époque.
On s'est installé devant le grand portail. De part et d'autre du grillage, avec des fourches, on a posé des gros ballots de fibres synthétiques et nous avons bloqué l'entreprise.
Après 73 jours de blocage, les grévistes obtiennent un délai et une aide financière de la région. Mais il faudra attendre 2001 et l'arrivée presque miraculeuse de l'actuel patron pour que l'avenir de l'usine s'éclaircisse. Aujourd'hui, elle fait partie des leaders mondiaux dans son secteur.
Alors maintenant, nous entrons sur le site même de Märkische Faser.
Au volant de sa belle voiture noire, une berline ouest-allemande, Mathias Hohmann fait les comptes à voix haute.
Alors là, sur cette friche, il y avait une unité de production gigantesque, inaugurée en 1988, mais on a dû vite la démanteler. Moi, je pense qu'on aurait pu la soutenir quelque temps pour la garder sur le marché. Cette décision de tout liquider en un temps record était vraiment à haut risque et a encore des conséquences politiques aujourd'hui même. À l'époque, financièrement, c'était évidemment la solution la plus rentable, et même moi je la comprenais. Mais au cours des 30 dernières années, on a transféré tellement d'argent de l'Ouest vers l'Est, notamment en cotisations sociales, que je pense que c'est sans comparaison avec ce qu'on aurait mis pour sauver notre économie. Et il faudra encore investir des sommes énormes pendant 20 ou 30 ans.
Une fois dans son bureau, l'ancien syndicaliste qui est devenu le directeur développement de la zone industrielle lâche ce qu'il a sur le cœur.
C'est clair, nous étions les perdants. Nous devions nous soumettre car notre système n'était pas le meilleur et il ne fait aucun doute qu'économiquement, il ne tenait pas la route. Mais la décision de sauver ou pas une entreprise dépendait entièrement de la Treuhand et de ses experts qui venaient, en l'occurrence, de chez nos concurrents directs, des cadres de chez Hoechst ou de Bayer, pour lesquels le territoire est-allemand était un marché à conquérir et tous les producteurs ou les sous-traitants de l'Est, comme nous, étaient gênants. Et donc, nous avons été retirés du marché.
L'économie est-allemande a été désossée, démantelée, dépossédée de sa capacité de production. L'ancienne RDA vit encore aujourd'hui sous perfusion financière de l'Ouest. Et cela joue aussi sur l'état d'esprit de ses habitants. 70% d'entre eux disent ne pas se sentir reconnus à leur juste valeur.
Privatiser à tout prix. A posteriori, ce n'était pas la meilleure solution pour la cohésion de la société dans son ensemble. Quand on te dit, et à ton voisin, et à tout le monde en fait, « Vous ne servez à rien, nous n'avons pas besoin de vous, ce que vous savez faire ne nous intéresse pas », eh bien, cela laisse des traces.
Aujourd'hui, Merkische Faser emploie, malgré les soubresauts du corona, toujours 500 personnes sur le site et d'autres entreprises l'ont rejoint. L'ancien syndicaliste a bien rebondi, il n'est pas amer, mais Matthias Hohmann voudrait qu'on dise enfin la vérité sur les conditions économiques de la réunification. Plusieurs personnalités politiques réclament, elles aussi, l'ouverture d'une commission d'enquête sur la Treuhand.
Die Wende, le tournant, comme on appelle couramment la réunification en Allemagne, est seulement aujourd'hui des voix qui émergent pour faire entendre une autre histoire de la RDA, la République démocratique allemande, et de sa réunion avec la RFA, la République fédérale allemande. Il y a là un enjeu de mémoire important dans cette histoire de l'Allemagne de l'Est, synonyme d'état policier et de débâcle économique aujourd'hui encore pour beaucoup d'Allemands, notamment chez des jeunes qui n'ont pas connu la période d'avant 1990. C'est un reportage de Romain Chevalier.
Le 9 octobre 1989 à Leipzig, un jour décisif. Les manifestants réclament plus de liberté et un assouplissement du régime.
Ce jour d'octobre fait remonter des souvenirs très émouvants pour Paul. À l'époque, il était un petit garçon de Leipzig, une des principales villes de ce qui était alors la République démocratique allemande. Il vivait en direct la fin du régime est-allemand qui allait conduire un an plus tard à la réunification.
Je me souviens d'un moment précis. J'étais sur les épaules de mon père. C'était très intense. Il y avait toute cette foule autour de moi, énormément de bruit. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de fort, de profond. Aujourd'hui encore, cela m'émeut d'en parler. Pourtant, je n'ai pas vécu ces restrictions de liberté.
À cette époque, Paul est encore trop jeune pour comprendre les enjeux de ces manifestations et de la réunification qui suit quelques mois plus tard. Son père lui raconte alors les formidables libertés qu'ils viennent d'obtenir, comme celle de parler sans se sentir espionné ou celle de circuler librement. 30 ans plus tard, Paul les savoure encore.
Toutes les opportunités que j'ai pu rencontrer, j'ai pu les vivre et en profiter grâce à la réunification. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens nés à l'Ouest et on sent qu'il y a toujours des différences. Pour eux, je reste celui qui vient d'un autre monde.
Alexander, lui, n'a jamais vécu sous l'emprise communiste. Il est né en 1991 et a donc toujours connu une Allemagne unifiée. Pourtant, l'histoire de la réunification l'a durablement marqué. Tout d'abord par son père, ancien prisonnier politique est-allemand, enfermé pendant de nombreux mois dans différents camps. Il est aujourd'hui guide francophone au Forum d'histoire contemporaine de Leipzig. Dans ce musée, Alexander raconte l'histoire de l'Allemagne divisée, puis sa réunification. Et il remarque que le jeune public ne se sent pas concerné par cette unité allemande, obtenu le 3 octobre 1990.
La plupart des jeunes ne comprennent pas vraiment l'ampleur de ce sujet. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à s'imaginer qu'est-ce que ça signifie de vivre dans une dictature, d'être démunis des droits privés de base. Et aussi, ils n'arrivent pas à s'imaginer l'importance et aussi la valeur des privilèges dont on profite aujourd'hui. Parce que à l'école, on n'apprend presque rien, c'était aussi pour moi le cas. Avant de commencer à travailler dans le musée, je ne me suis jamais vraiment occupé avec ce sujet-là.
Ce manque d'intérêt est ressenti par beaucoup de jeunes, notamment ceux nés dans l'ex-Allemagne de l'Ouest. C'est le cas d'Oliver, originaire de Nuremberg. À 26 ans, cette époque qu'il n'a pas vécue et dont il a très peu parlé avec sa mère lui paraît aujourd'hui très lointaine. Pour lui, l'Allemagne a toujours été constituée d'un unique territoire. Alors entendre des réflexions sur les Osis, un terme utilisé pour désigner les anciens de l'Est de l'Allemagne, l'embarrasse.
En fait, on a pris le train récemment avec ma mère et on avait fait un stop à Leipzig. Et du coup, il y a plein de gens qui sont descendus et ma mère, elle a fait un commentaire. Elle a fait « Ouais, oh, les Osis, ils descendent ». Et du coup, ça m'a vraiment... Enfin, c'était très péjoratif, en fait, ce terme-là. Et du coup, enfin, ça m'a vraiment gêné, le fait qu'elle pense toujours comme ça. Enfin, au fond, je pense que c'était pas méchant, mais pour moi, il n'y a qu'une Allemagne. Voilà, cette séparation dans ma tête, elle n'y est pas, alors que pour elle, apparemment, si, elle y est toujours.
Mais 30 ans après, des inégalités persistent encore entre l'Est et l'Ouest du pays. D'après le rapport annuel sur l'état de l'unité allemande, le taux de chômage est toujours plus conséquent à l'Est et les salaires en moyenne 12% plus bas.
Et sans évoquer la nostalgie pour l'ex-RDA, on peut clairement parler aujourd'hui d'une fierté portée aussi par la toute jeune génération pour certaines valeurs de l'ancienne Allemagne de l'Est. Un pays où le monde ouvrier était à la fois respecté et protégé, où la femme avait un rôle important. On comprend tout cela en lisant le livre « La RDA après la RDA » d'Agnès Arp et Elisa Gudensteinmann. Elisa Gudensteinmann est notre invitée dans Accent d'Europe.
Pour nous, la RDA existe aujourd'hui. Elle existe dans les mémoires familiales, dans les transmissions familiales classiques. Elle existe aussi dans certaines pratiques sociales qui persistent, y compris à l'école, par exemple. On évoque le niveau en mathématiques des filles, des choses comme ça, où on voit des différences Est-Ouest aujourd'hui encore, avec pourtant des petites filles qui sont nées après la chute du mur. C'est ça qui était intéressant de voir que la RDA existe 30 ans après, y compris sur la nouvelle génération, ce que personne n'aurait prédit il y a 30 ans, en fait.
Au moment de la réunification, la RDA, elle a été engloutie, en fait, par la République fédérale allemande. Il n'y a pas eu une nouvelle constitution écrite. Il y a eu clairement un gagnant, un perdant, d'une certaine manière.
Oui, mais le gagnant a perdu aussi dans le fait qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est ça qui est intéressant. En effet, vous dites englouti, c'est exactement ça. La RFA s'est juste agrandie. Donc, c'est pas une vraie unification qui aurait nécessité d'écrire une constitution, donc de réfléchir à des choses comme le droit de la nationalité, qu'est-ce qu'on fait, droit du sang, droit du sol.
Entité allemande avait un droit différent sur des questions aussi fondamentales.
Exactement. Mais du coup, pour aller vite... Et il fallait aller vite, ça c'est vrai. Il y avait une petite fenêtre pendant laquelle l'unification était possible, où Gorbatchev était au pouvoir, etc. Donc il fallait aller vite. Et pour aller vite, on a trouvé plus simple d'agrandir la RFA, donc de garder tout le système de loi de RFA. Mais cette accélération, elle a eu un prix politique, un prix social, un prix économique. Et c'est ça que montre aussi le livre. Et c'est ça qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui, alors que pour les célébrations des 20 ans, on l'a peu dit ça.
Oui, ça a été dur pour les habitants d'Allemagne de l'Est. Ça a été dur dans le sens où on retient les queues pour consommer devant les magasins. On retient la fin de l'état policier, de la Stasi. Mais il y a eu des choses qui ont été très difficiles à vivre quand même.
Oui. Le début des années 90, c'est une catastrophe économique dans les nouveaux Länder, comme on en connaît très peu, avec un chômage. En plus, les gens n'étaient pas habitués au chômage. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et le travail était aussi un endroit où s'articulait la vie sociale à travers la brigade, les fêtes d'anniversaire, les gardes d'enfants. Il n'y avait pas d'étanchéité entre la vie professionnelle et la vie privée. Beaucoup moins, en tout cas, que dans nos sociétés actuelles. Et donc, le chômage était vraiment un énorme choc. Et plus le fait que tout un système de valeurs s'inverse, par exemple, le mineur ou l'ouvrier sidérurgiste qui étaient des héros du travail en RDA deviennent, aujourd'hui, on les voit comme des pollueurs, etc. C'est très dur d'inverser comme ça tout un système de valeurs. Et il y a un chiffre que je cite souvent qui montre l'ampleur de la catastrophe, c'est que en 1994, on est tombé dans les nouveaux Länder à 0,77 enfants par femme. On n'a jamais enregistré un taux aussi bas nulle part dans le monde à aucune époque, sauf au Vatican. Donc c'est pour vous dire, ça veut dire que vraiment la crise était très, très, très profonde et très douloureuse.
On a beaucoup parlé, il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de l'ostalgie. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a l'impression, à la lecture de votre livre, que les Allemands de l'Est se réapproprient leur passé et essayent d'en faire quelque chose qui pourrait servir à toute l'Allemagne, finalement.
Moi, j'explique ça par le changement de génération, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les Wendekinder, les enfants nés dans les années 70, par exemple, se réapproprient leur histoire, critiquent ce discrédit global et font porter une voix qui est nouvelle, en fait. Depuis qu'ils sont devenus de jeunes adultes professionnels. Donc il y a ce changement de génération qui a permis comme ça d'avoir des voix nouvelles. Il y a plein d'exemples de ça et on le voit aussi assez bien dans le livre. Il y a vraiment une histoire de génération qui joue un rôle. Et tant mieux qu'ils osent ce que leurs parents n'osaient pas faire. Parce que au-delà de l'aspect dictature, torture, peine de mort qui est incontestable hein, de RDA, il y avait aussi des choses intéressantes sur le rapport au travail, les femmes, les rapports hommes-femmes, sur le financement des collectifs artistiques dans les entreprises, enfin plein de choses qui ont été, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain en fait. Et cette génération-là est capable de dire bon, il y avait des choses intéressantes et qui nous serviraient aujourd'hui pour sortir de cette recherche de la croissance à tout prix, sortir de notre modèle économique qui va dans le mur, en fait.
C'est vendredi, c'est la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
On écoute les Belges de Yellow Straps.
Yellow Straps, ce sont les frères Alban et Ivan Murenzi, originaires du Rwanda, et devenus ces derniers mois les grands espoirs de la néo-soul européenne. Ils ont donc écrit, composé et produit une série de titres en invitant un artiste différent sur chaque morceau via Zoom ou Skype. Publiées au fil de l'eau sur YouTube, ces chansons sont aujourd'hui réunies sur un album, le bien nommé Yellowdown Project.
Pas besoin de quelqu'un d'autre, juste regarder ta démarche si je n'avais pas récemment. Comme tous les jours, tu prends le bus après l'aube. J'essaie encore de deviner ton prénom. Je tire mon ombre comme un traîneau. Un trajet sans te parler devient très long. Mais je ne trouve pas d'excuse qui ait l'air assez bonne pour te déranger sans ressembler à l'un de ces bolos. Un ouragan sous le plexus. Si ça se trouve, tu fais semblant d'être bien dans tes godasses. Qu'est-ce que tu fais le soir? Qui est-ce que tu rejoins? Toutes mes questions qui s'accumulent en tirant sur le joint. Tu m'as vu sans me voir, mais si jamais tu reviens, tu peux prendre mon armure, je n'en ai plus besoin. Hey, je suis sûrement pas le seul de la ville à qui tu pourrais faire passer le seuil de l'asile. J'attendrai sur le sol de l'abri, puisque tu me fasses un signe de la vitre. T'es mes sans âme, j'ai pas besoin de questions. Pas besoin de quelqu'un d'autre, juste regarder ta démarche. Si je n'avais pas raison, et si je n'avais pas quelqu'un d'autre, je vais t'aimer sans relâche. J'ai pas besoin de questions. Pas besoin de quelqu'un d'autre, juste regarder ta démarche. Si je n'avais pas raison, je ne veux plus de la boule au ventre ni des combats d'ego. Fatigué de dépenser toute mon énergie dans la négoce. Derrière les lettres à l'eau de rose, la zizanie se déguise. Et je n'ai pas envie d'offrir un mauvais style de vie à mes gosses. Mais au moindre croisement d'iris, je ne sais plus quelle partie de mon corps est celle qui me dirige. Et même si tout ça risque de se terminer dans la débauche, je ne connais rien qui puisse soigner ce virus. Quelles sont les bonnes étapes? Rester solo le temps de rendre le taf, ou bien se mettre ensemble tout de suite? Qui c'est qui donne le top? Ça m'a souvent valu des courts-circuits. J'essaye de voir mes fautes, mais j'ai l'impression qu'il reste encore quelques que des fous qui me poursuivent. T'es mes sans âme, j'ai pas besoin de questions. Pas besoin de quelqu'un d'autre, juste regarder ta démarche. Si je n'avais pas raison, et si je n'avais pas quelqu'un d'autre, je vais t'aimer sans relâche. J'ai pas besoin de questions. Pas besoin de quelqu'un d'autre, juste regarder ta démarche. Si je n'avais pas raison.
Les Belges de Yellow Strap sur RFI. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, toute l'équipe vous retrouve à partir de lundi pour une nouvelle saison et toujours en podcast sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.